Bella figlia dell'amore, schiavo son te vezzi tuoi.
Mystique d'Occident, une émission présentée par Hélène. Nous avons terminé notre émission, notre série d'émissions sur les lettres des Pères du désert. Et nous commençons une nouvelle série avec Anne-Marie sur les mystiques d'Occident. Et pour passer d'un continent à l'autre, nous vous proposons des homélies magnifiques sur le Cantique des Cantiques. Nous avons déjà vu ensemble Origène. Nous voyons aujourd'hui Grégoire de Nice et verrons prochainement Saint Bernard, puis Thérèse d'Avila, dont nous parlerons plus en détail plus tard. Nous voici donc avec Grégoire de Nice, qui pour lui nous évoque le Cantique des Cantiques comme un ensemble de trois points fondamentaux qui sont le devenir, l'image et l'étreinte. Le devenir, c'est-à-dire le passage de l'amour charnel à l'amour spirituel. L'image, c'est-à-dire l'âme miroir du divin quand elle est purifiée. Et nous voyons à présent l'étreinte du Christ et de son épouse, la colombe. La notion du devenir peut se résumer dans le symbole de la source qui coule éternellement, l'image du miroir, de l'âme, fait de cette source une fontaine scellée, comme une citerne au repos. Mouvement et repos ne sont plus que deux aspects d'une même réalité. Le comble des paradoxes, c'est que repos et mouvement ne font plus qu'un. Mais pour en arriver là, il faut retourner radicalement la direction du premier regard. La question n'est pas de savoir comment l'âme rejoint Dieu, mais comment Dieu s'y prend pour rejoindre l'âme. C'est la différence entre la philosophie et la théologie. Ce qui porte l'image n'est pas l'âme individuelle, mais la nature humaine, qui est une et unique. Les hommes n'en sont que l'expression et la représentation. En devenant un homme individuel, le Christ a assumé et divinisé du même coup la nature humaine universelle, tout entière. Par là, tous les hommes sont en communion immédiate et ontologique avec lui. Les monades closes brisent leurs parois, elles s'ouvrent de l'intérieur au flot de la grâce divinisante. L'incarnation ne sera parachevée qu'au moment où toutes les natures humaines, en tous leurs membres, seront devenues transparentes à la grâce de l'incarnation. Lorsque le corps adamique sera devenu le corps mystique du Christ. Lorsque le bien se sera partout répandu, le corps tout entier sera soumis à la force vivifiante. La soumission du corps s'appellera la soumission du Fils lui-même au Père, du Fils qui ne fait qu'un avec son corps, c'est-à-dire l'Église. Alors le Christ cessera de se construire, toute la création ne sera plus qu'un corps unique. L'Église est elle-même cette épouse, dans le cantique, la colombe parfaite. L'Église ne se contente pas d'enseigner comme un maître qui sait, mais elle gémit elle-même, comme celle qui ne sait pas encore. Elle s'avance comme voilée par l'ombre de la mort, à la rencontre de l'époux. Elle incarne à la fois, en toute vérité, le désir éternel de Dieu, comme elle incarne l'image de Dieu. Elle est frontière entre vie et mort, entre opprobre et gloire, entre Dieu et le monde. Elle est médiatrice auprès du médiateur. Sa vérité est celle du miroir, d'un vitrail, par où les flots de la lumière divine se déversent sur le monde. Notre aspiration éternelle vers l'inconnu s'est muée en une attente frémissante, poignante, d'un Dieu qui se donne sans cesse, mais dont la dation même le rend toujours plus grand, plus insaisissable. Le fleuve de vie en Dieu, c'est la Trinité. On aboutit ainsi à l'inhabitation des trois personnes divines au-dedans de l'âme. Et la blessure ouverte par Dieu au flanc de l'âme, c'est le Fils, lancé par le Père comme une flèche. La transparence de l'âme divinisée, où Dieu se mire comme dans une glace, c'est l'Esprit Saint qui habite en elle comme grâce. Une mystique contemporaine nous disait que celui qui prétend monter de ses propres forces se trouve rapidement acculé à ses limites. S'il parvient à la sainteté, cette sainteté reste personnelle et limitée, mais celui, au contraire, qui descend dans sa propre misère et s'anéantit, atteint l'extrême limite du « moi » en lui. Et c'est là la vraie sainteté, la sienne, celle du Seigneur. Grégoire de Nice nous propose une progression dans sa compréhension du Cantique des Cantiques. Tout d'abord, la place du Cantique dans l'Écriture, où elle constitue un sommet, le mariage mystique, l'essence spirituelle développée. Ensuite, il nous parle de la cèse qui purifie le cœur et lui fait retrouver la ressemblance initiale avec Dieu. Renouvelée par le baptême, qui est le passage de la mer Rouge, le fidèle commence alors à percevoir le parfum du Christ. L'âme devient miroir de Dieu. Et l'on parle alors de la blessure d'amour. Ensuite, Grégoire nous dit que le printemps spirituel de l'homme est sauvé par le Christ. C'est une nouvelle approche du bien-aimé, un désir de sa venue. L'infini du désir et la saisie de la foi. Il y a ensuite le thème nuptial du Christ et de l'Église, puis l'ascension progressive qui, de la cèse, mène à la contemplation, les commencements sans fin. Il évoque ensuite la fiancée qui progresse dans l'expérience spirituelle et s'approche de la source scellée. Ensuite, le jardin mystique, dans lequel descend le Christ, le banquet et la sobre ivresse. Également, le sommeil vigilant. Je dors, mais mon cœur veille. Ensuite, nous voyons l'ascension progressive, la porte de Dieu qui s'entrebâille. Et ensuite, la beauté qui paraît et échappe. me baises des baisers de sa bouche, car tes seins sont meilleurs que le vin, et l'odeur de tes parfums plus suave que tous les arômes. Ton nom est un parfum qui s'épand. Voilà pourquoi les jeunes filles t'ont aimé, elles t'ont attiré. Derrière toi, nous courons vers l'odeur de tes parfums. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Jubilons et réjouissons-nous en toi. Aimons tes seins plus que le vin. La droiture t'a aimé. Vous tous, écoutez les mystères du Cantique des Cantiques. Entrez dans la chambre nuptiale, pure, en étant vêtue de blanc, car vos pensées sont claires et saines. Au contraire, que l'on raisonne en termes passionnés et charnels, qu'on n'ait pas endossé le vêtement de la conscience qui sied au mariage divin, et on restera prisonnier de ses propres réflexions. On ramènera ainsi les paroles innocentes du fiancé et de la fiancée à des passions bestiales et insensées. Empli de fantasmes honteux, on sera rejeté loin de ceux qui se réjouissent dans ces noces, et au lieu de la joie éprouvée dans la chambre, on connaîtra les grincements de dents et les larmes. À ce propos, Grégoire nous dit qu'il revient au texte des Proverbes. Personne soumis aux passions et attaché à la chair, exhalant encore l'odeur fétide de l'homme ancien, ne doit faire glisser vers de grossières élugubrations le sens des pensées et des termes spirituels. Au contraire, chacun sortira de lui-même et s'échappera de l'univers matériel. Son impassibilité le mènera en quelque sorte au paradis et sa pureté l'apparentera à Dieu. Il progressera ainsi vers le cœur des mystères qui traversent ce livre des Cantiques. Et si l'âme de certains n'est pas préparée pour une telle lecture, qu'ils écoutent ce commandement de Moïse. Nous ne devons pas nous enhardir à gravir la montagne spirituelle avant d'avoir lavé les vêtements de notre cœur et d'avoir purifié notre âme en répandant sur elle les pensées qui conviennent. Aussi, au moment où nous nous consacrons à cet examen du Cantique des Cantiques, nous faut-il, je pense, oublier les idées propres au mariage selon le précepte de Moïse. L'initiation au mystère nous purifie en nous éloignant du mariage. Nous devons nous en tenir aux leçons du législateur avant d'aborder la montagne spirituelle de la connaissance de Dieu. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. L'âme est unie à Dieu. Elle ne peut se rassasier de sa jouissance et son désir est d'autant plus grand et ardent qu'elle est largement habitée par la beauté. Puisque les mots du fiancé sont esprit et vie, puisque tout homme uni à l'esprit devient lui-même esprit, puisque celui qui s'attache à la vie passe de la mort à la vie, selon les paroles du Seigneur, la vie avec un grand V bien sûr, pour ces raisons, l'âme, la jeune fille, veut s'approcher de la source de la vie spirituelle. Et cette source est la bouche du fiancé, d'où jaillissent les paroles de la vie éternelle, pour emplir la bouche qui les appelle. Ainsi faisait le prophète dont la bouche attirait l'esprit. Celui qui boit l'eau de la source doit appliquer ses lèvres sur ses lèvres, et cette source est le Seigneur, qui déclare « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi, qu'il boive. » Aussi l'âme assoiffée souhaite-t-elle approcher sa bouche de celle qui fait couler la vie comme d'une source, et elle s'écrie « Qu'il me baise des baisers de sa bouche. » Celui qui fait sourdre la vie universelle, qui veut le salut de tous, souhaite que tous les hommes sauvés connaissent un tel baiser, car il purifie de toute souillure. Et je crois pouvoir ainsi distinguer un reproche dans les paroles que le Seigneur a adressées à Simon le lépreux. « Tu ne m'as pas donné le baiser. En vérité, tu aurais été guéri si ta bouche t'avait attiré la pureté. » Mais Simon était sans doute sans amour, trop préoccupé des excroissances que la maladie avait fait naître en sa chair et qui l'empêchaient de progresser dans le désir de Dieu. Au contraire, l'âme purifiée, sans aucune trace de lèpre, est orientée vers le trésor des perfections. Ce trésor se nomme cœur, et c'est de lui que coule le lait divin jusqu'au sein. L'âme se nourrit de ce lait, aspirant la grâce à la mesure de sa foi. C'est pourquoi elle déclare « Tes saints sont meilleurs que le vin ». Voici maintenant les paroles qu'adresse la fiancée aux jeunes filles. « Je suis noire et belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. » La nuit, le règne des ténèbres vient tout obscurcir, même ce qui par nature est clair. Or, le retour de la lumière ôte à ce que l'obscurité avait assombri, toute analogie avec les ténèbres. De la même façon, lorsque l'âme passe de l'erreur à la vérité, l'allure obscure de la vie se métamorphose en grâce lumineuse. Les propos adressés à Timothée sont identiques à ceux que tient aux jeunes filles la fiancée du Christ. Paul, dont l'âme a perdu sa noirceur pour se faire éclatante, il a mérité de devenir beau, lui aussi, qui auparavant était blasphémateur, persécuteur, orgueilleux et ténébreux. Et le Christ est venu dans le monde pour illuminer les âmes noires. Il n'appelait pas les justes à lui, mais des pécheurs à la pénitence, des pécheurs que par le bain de la régénération, il a fait briller comme autant de lumière, de points de lumière, lavés de toute trace des ténèbres. L'œil de David voit ce même spectacle dans la cité d'en haut et il reste saisi d'étonnement. Comment dans la cité de Dieu que l'on se plaît à célébrer, peut-on figurer Babylone? Peut-on y évoquer la prostituée Rahab? Les peuples étrangers, Tyr, les Éthiopiens y trouvent-ils place? De façon que nul au monde ne puisse plus reprocher à cette cité la solitude de ses habitants en déclarant « Par hasard, dira-t-on encore de Sion ?» Tout homme y est né. En vérité, les peuples étrangers deviennent membres de la cité, les Babyloniens habitants de Jérusalem. La prostituée retrouve sa virginité. Les Éthiopiens ne sont plus noirs, et la cité d'en haut est Tyr. Aussi la fiancée déclare-t-elle, « Je suis noire et belle, fille de Jérusalem. Regardez-moi, et devenez vous aussi des peaux de Salomon, même si vous êtes des tentes de Kédar. » L'homme a le libre choix entre le bien et le mal, et la différence du choix que l'on peut opérer a divisé la nature, tournée vers l'amour ou vers la haine. En effet, ceux qui ont renoncé à vivre pour le bien et qui, s'éloignant de la divinité, lui ont substitué le mal. En effet, le mal n'est-il pas la séparation d'avec la perfection ? Ces personnes s'ingénient constamment à trouver les moyens de s'attirer l'amitié et la complicité d'autres individus dans le mal. C'est pourquoi la fiancée déclare « Les fils de ma mère m'ont livré la guerre ». Les fils de ma mère signifient au pluriel la multiplicité des vices. Donc non pas en menant des attaques de l'extérieur, mais en transformant mon âme en champ de bataille, faisant d'elle le cœur des conflits. Car la guerre est en chacun. Comme le signifie l'apôtre Paul en ces termes, je perçois dans mes membres une loi qui combat contre la loi de mon intelligence et me tient captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Cette vigne, c'est l'immortalité. Cette vigne, c'est l'impassibilité et l'assimilation au divin. C'est l'hostilité à tout péché. Son fruit, c'est la pureté. Cette grappe éclatante et mûre, que le soleil chauffe et dore, et qui adoucit dans la pureté l'essence de l'âme. Les vrilles de la vigne sont l'enlacement de l'union, l'union avec la vie éternelle. Les sarments qui poussent de tous côtés signifient l'élévation des vertus qui montent jusqu'à rejoindre les anges. Les feuilles, abondantes et qu'agitent délicatement sur les rameaux un souffle paisible, sont la parure chatoyante des vertus divines qui s'accroissent avec l'esprit. Moi qui possédais tous ces biens, dit-elle, moi que la jouissance de ces trésors avait rendu éclatante, pour n'avoir pas gardé ma vigne, j'ai été noircie et affligée. J'ai été déchue de ma pureté et revêtue l'habit obscur. Comme on peut voir en effet la tunique de ma peau brune, noire. Mais maintenant, grâce à la droiture qui m'a de nouveau aimée, je suis devenue belle et lumineuse. Je me méfie toutefois de mon heureux sort, car je crains de reperdre ma beauté si je ne sais comment ne pas faillir et si je manque à ma surveillance.
C'était les Mystiques d'Occident, une émission présentée par Hélène.